Homo sapiens et Homo sapiens.
C'est un bon début de discours, moi, je trouve.
Nous avons de nombreux points communs. L'un de ces points communs, c'est notre origine. Nous sommes tous d'origine africaine. Et oui, même vous, Anne Bécher. Et cette vérité que la génétique, et cette vérité donc que la génétique a validée depuis longtemps, eh bien, elle en implique d'autres, Adrien Zerbini.
Oui, car si certains petits groupes d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique il y a environ 120 000 ans pour peupler le reste du monde, nos ancêtres à nous, par exemple européens, avant ces départs, Homo sapiens a vécu 200 000 ans uniquement en Afrique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de choses, entre autres que l'Afrique connaît une diversité génétique incroyable et forcément beaucoup plus riche que tous les autres continents. Cette diversité se retrouve notamment dans le nombre incroyable de langues parlées sur ce continent, environ 2000. Tout ceci donc, alors que les Occidentaux ont souvent une perception de l'Afrique un peu monolithique et simpliste.
Et cette diversité, elle est donc scientifiquement étudiée?
Heureusement oui, notamment par des chercheurs de l'unité d'anthropologie de l'Université de Genève, qui d'ailleurs propose une exposition dès aujourd'hui sur ce thème, Afrique, 300 000 ans de diversité humaine, à la salle d'exposition du 66 boulevard Carvocht à Genève.
Et cette exposition, bien, c'est un projet mené par la professeure responsable de l'unité d'anthropologie, Alicia Sanchez-Mazas. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être en direct et en duplex de notre studio de Genève. Alors à vos côtés, il y a une autre chercheuse de votre unité qui a participé à ce projet, Anne Mayer. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Vous êtes maître d'enseignement et de recherche, vous êtes archéologue. On va comprendre pourquoi justement pour faire ces recherches, il faut à la fois des généticiens, des paléontologues et des archéologues, Adrien.
Exactement. Alors Alicia Sanchez-Mazas, vous êtes justement généticienne spécialisée dans la génétique des populations. Avec vos recherches, on arrive à retracer les origines et les déplacements de nombreux peuplements. Est-ce que dans cette toute première histoire d'Homo sapiens, c'est-à-dire avant qu'il quitte l'Afrique il y a environ 120 000 ans, vous arrivez également à savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment les populations se sont déplacées sur ce vaste continent ?
Il y a relativement peu d'informations avant 120 000 ans. 120 000 ans, c'est une période qui va connaître un réchauffement climatique et à partir de laquelle Homo sapiens, effectivement, va quitter l'Afrique pour peupler le reste du monde. Avant, on a des fossiles, surtout, quelques fossiles qui montrent une anatomie un peu de transition entre des très archaïques et des Homo sapiens modernes. On imagine que ces Homo sapiens ou archaïques, sapiens, étaient peu nombreux avant 120 000 ans. La génétique permet de reconstituer une expansion démographique qui aurait eu lieu à partir de 120 000 ans, ce qui signifie qu'avant cette période, très vraisemblablement, les populations étaient peu nombreuses, mais néanmoins pouvaient quand même avoir des échanges.
Et elles se déplaçaient pour quelles raisons ?
Ah, bah, pour toutes sortes de raisons. On se déplace par curiosité, on se déplace pour suivre des ressources. Voilà, les généticiens, ils essayent maintenant de modéliser un petit peu ce qui s'est passé avant 120 000 ans, ce qui est quand même une chose assez difficile.
Ouais, bon, on parle pas mal, enfin j'ai lu pas mal de fois qu'en fait c'est surtout aussi des changements climatiques qui auraient poussé les populations à se déplacer pour justement suivre les ressources, c'est bien ça, oui.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on explique justement une expansion hors d'Afrique à une période relativement récente.
Alors c'est en étudiant l'ADN des populations d'aujourd'hui que vous arrivez à retracer les choses, alors difficilement avant 120 000 ans. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler le principe de base de cette génétique des populations, parce que c'est quelque chose d'assez fascinant?
Alors, effectivement, on étudie la diversité génétique. Ça consiste à étudier des mutations qui se passent dans l'ADN. L'ADN, c'est cette molécule de notre identité biologique qui se transmet de parent à enfant et qui subit des petites modifications de génération en génération. Ce sont les mutations. Ces mutations, on en accumule. Elles sont pas forcément délétères. Elles sont pas forcément néfastes pour la survie des individus. Au contraire, elles marquent les différences entre les individus, entre vous et moi. Avec le temps et avec les effectifs démographiques qui vont croître, on accumule beaucoup de mutations. Et ça permet justement d'étudier, de comparer les populations entre elles, de remonter le temps, savoir à quel moment il y a eu ces expansions démographiques ou des contractions démographiques, etc.
Alors, avec vos recherches sur l'ADN des populations, vous allez pouvoir, un peu comme une enquête policière, échafauder des hypothèses, puisque vous n'avez pas non plus, voilà, vous pouvez tracer des mouvements sur une carte, mais c'est difficile. Il convient ensuite parfois de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Et c'est là que, par exemple, l'archéologie entre en scène, Anne Mayer.
Oui, alors bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça passe, dans le sens où l'archéologie n'est pas menée de façon à valider ou invalider des hypothèses de la génétique.
En fait,
chaque discipline a ses objectifs, ses méthodes, ses objets de recherche, mais en fait, chacune va apporter une pièce au puzzle. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de confronter les connaissances acquises par chacune de ces disciplines, et aussi par d'autres disciplines, comme la linguistique, par exemple. Et donc, c'est cette combinaison qui va permettre de reconstituer les scénarios historiques les plus probables. Alors évidemment, la génétique des populations, elle a besoin de l'archéologie, par exemple, pour pouvoir disposer de repères dans l'espace et dans le temps, qui permettent de caler tous ces phénomènes d'évolution biologique.
Une sorte
qui
de balise,
ont été...
comme ça,
voilà,
ouais.
Exactement. Et puis, l'archéologie, elle a aussi besoin de la génétique des populations, par exemple, pour mieux comprendre les relations entre les groupes qui se sont succédés dans une région donnée, quand les vestiges matériels parfois sont ambigus ou peu loquaces.
Alors on peut prendre des exemples de recherche, parce que là on est encore très théorique. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'une fouille où vous avez travaillé
comme
ça?
Oui, par exemple, nous avons travaillé plus de 20 ans en Pays d'Ogon, au Mali, et dont notre équipe, qui à l'époque était dirigée par Eric Oisecom, a permis d'établir tout un scénario d'évolution des modes de vie pendant tout l'Holocène, donc pendant à peu près 12 000 ans. Et moi, je me suis particulièrement intéressée à la période la plus récente, donc en fait l'arrivée des Dogons il y a à peu près 500 ans et les relations qu'ils ont pu entretenir avec les populations antérieures. Et donc mon projet actuel travaille sur les restes humains de populations qui ont été enterrées dans des sépultures collectives dans la falaise de Bandiagara, et la collaboration avec des généticiens permet justement d'essayer de mieux comprendre les liens qu'il y a eu entre ces populations pré-Dogons et les Dogons à leur arrivée.
Est-ce que vous, dans vos recherches, vous trouvez assez de sites où il y a en fait du matériel archéologique ou archéologiquement exploitable, autre que par justement une analyse génétique ?
Oui, alors bien sûr, sur les fouilles archéologiques que nous menons, nous trouvons toutes sortes de vestiges, donc des vestiges tels que, ça dépend des époques, ça peut être des outillages lithiques, de la céramique, mais aussi par exemple des vestiges botaniques ou des restes de faune, et donc tous ces éléments-là conjointement nous permettent de raconter une histoire, et puis la génétique effectivement apporte un nouveau point de vue également, si on peut l'utiliser. Alors là, peut-être il faut faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que Alicia vient nous parler de la génétique faite à partir d'échantillons sur des populations modernes, mais on peut aussi tenter des analyses d'ADN anciens sur des restes humains du passé. Alors en Afrique, c'est encore peu développé parce que l'ADN ancien se conserve mal, mais voilà, ce sont les premières tentatives en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques données qui existent déjà dans le reste de l'Afrique.
Alors, Alicia Sanchez-Mazas, Adrien mentionnait tout à l'heure en début de sujet l'extraordinaire diversité des langues africaines, il parlait de 2000 langues environ. Est-ce qu'il y a un lien clair entre ces langues et la génétique des populations? Autrement dit, est-ce qu'un linguiste sans les outils génétiques modernes arriverait aux mêmes conclusions que vous?
La linguistique, c'est une approche indépendante. C'est ça qui est intéressant. C'est indépendant de la génétique. Donc, on peut vraiment croiser les résultats. Ce que font les linguistes qui s'intéressent à l'histoire des langues, c'est de comparer les langues entre elles et de reconstituer des grandes familles linguistiques. Et ces mêmes familles vont être également comparer entre elles et regrouper, quand c'est possible, dans des grandes superfamilles qu'on appelle des phylums linguistiques. Alors en Afrique, il y a 4 grands phylums linguistiques qu'on identifie, et on peut comparer justement la structure génétique des populations actuelles avec la structure linguistique de l'Afrique à l'heure actuelle. Et on se rend compte qu'il y a des importantes corrélations, comme si pendant l'histoire, pendant la préhistoire, il y aurait eu une histoire commune des langues et des gènes. Alors ça, c'est très intéressant parce que les linguistes arrivent à proposer justement des lieux d'origine, des lieux d'expansion de ces grandes familles. Par exemple, ils ont une approche indépendante qui consiste à regarder quelles sont les régions dans lesquelles on observe la plus grande diversité linguistique. Et là, ils vont éventuellement inférer un lieu d'origine d'une grande famille linguistique. C'est un peu le même principe qu'avec la génétique. Donc évidemment, il y a des limites, et c'est là que c'est intéressant de croiser les approches indépendantes.
Et c'est-à-dire que, si je vous ai bien compris, c'est que une région qui est de la même famille langagière, linguistique, aurait des origines communes en fait.
Oui, tout à fait. En fait, par exemple, si vous prenez en Afrique les langues bantoues, qui sont très très nombreuses, eh bien, elles se ressemblent beaucoup entre elles, ce qui fait que on arrive à les regrouper dans une grande famille. Et on pense que cette famille, elle est partie quelque part d'Afrique centrale et elle a migré vers le sud de l'Afrique.
Et on peut retrouver ça donc de manière génétique. Alicia Sanchez-Madas, en 2017, on a découvert le plus ancien fossile attribué à Homo sapiens au Maroc. Il remonte à environ 300 000 ans. Alors qu'avant cette découverte, les anciens crânes avaient été mis au jour en Éthiopie et on les datait de 200 000 ans. Ça veut dire que d'un coup, notre espèce vieillit de 100 000 ans et n'a pas les mêmes origines géographiques que ce qu'on pensait. Donc on n'est peut-être pas au bout du tout de nos surprises avec nos origines.
On n'est pas au bout de nos surprises parce que on est toujours en train de faire des fouilles de terrain et puis de redater ou de dater des vestiges. Donc ça peut nous révéler des nouvelles, justement, comme là, des nouvelles datations. Par exemple, récemment, entre 2015 et 2017, il y a eu une découverte qui était assez spectaculaire de fossiles en Afrique du Sud qu'on a appelé des fossiles d'Homo naledi. On a classé ces fossiles qui étaient extrêmement nombreux dans une espèce du genre Homo. Pourtant, ces fossiles présentent des anatomies très très particulières. Une toute petite boîte crânienne, à peu près un tiers d'Homo sapiens, mais quand même des caractéristiques modernes qui suggèrent que c'était des primates comme nous, mais qui pouvaient se déplacer debout, courir. Et ces fossiles ont été datés à 250 000 ans, donc une période qui est complètement contemporaine aux premiers Homo sapiens.
Et parce qu'en fait, plus on remonte dans le temps, plus on trouve de vieux fossiles, plus c'est difficile de les classer dans sapiens ou pas. Dans un autre genre Homo, parce qu'en fait il y a quelques caractéristiques de base, on le sait, que tout le monde admet, mais parfois il y en a une mais pas l'autre, ou parfois un tout petit peu d'une.
Ce qui est difficile, c'est que avec des fossiles, on peut pas véritablement être sûr qu'on a affaire à une espèce telle que les biologistes entendent ce qu'est une espèce, c'est-à-dire des membres d'une même communauté qui peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Là, il s'agit d'espèces anatomiques et bien entendu, on a souvent des vestiges assez fragmentaires qui permettent pas de rendre compte de toute la diversité, par exemple, d'une même population.
On va s'intéresser d'un peu plus près à ce qui s'est passé plus récemment, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans en Afrique. C'est une période importante pour l'humanité puisque c'est les débuts de l'agriculture un peu partout, la révolution néolithique. Et c'est une époque où le Sahara est verdoyant, Alicia Sanchez-Madas.
Oui, c'est une période importante parce que on a des changements de mode de vie des populations du fait qu'il y a eu ces changements climatiques. Le Sahara verdoyant, ça veut dire qu'on peut repeupler le Sahara. Ça veut dire que des populations qui avant étaient confinés dans des zones refuges parce que les conditions climatiques ne permettaient pas trop de bouger en dehors des points d'eau, des côtes ou des régions un peu montagneuses au néolithique. Là, ça va changer. Les populations vont pouvoir changer de mode de vie, subir des expansions démographiques et vont complètement recoloniser, repeupler la planète.
Et donc se rencontrer.
Avoir des échanges génétiques, ce qui va évidemment recréer de la diversité génétique.
Alors, puisqu'on est dans cette période de la révolution néolithique, on se dit intuitivement qu'avec l'Égypte, qui fait partie du croissant fertile, c'est plus ou moins la même domestication qui a eu lieu en Europe et en Afrique. Or, les révolutions, et il faut le mettre au pluriel, néolithiques africaines ont été très différentes. Vous avez pas mal travaillé là-dessus, Anne Maier.
Effectivement, à part la vallée du Nil, le continent africain, il a connu des trajectoires en fait vers la domestication qui sont très différentes de celles qu'a connues l'Eurasie. En Afrique, moi je dirais qu'il n'y a pas à proprement parler de révolution néolithique comme on l'entend traditionnellement, avec ce paquet de transformations conjointes qui inclut la sédentarisation, l'élevage, l'agriculture, la céramique. Non, en Afrique, en fait, ce sont des éléments qui apparaissent dans des temps séparés. Donc, le tout premier élément à apparaître, c'est la céramique. Il y a plus de 11 000 ans, donc bien avant l'Europe, dans un contexte climatique, justement, de reprise de l'humidité, de la chaleur, et de verdoiement du Sahara, comme on vient d'en parler. Et donc là, notre équipe a notamment retrouvé des traces de ces toutes anciennes céramiques au Mali notamment. Et puis, donc, cette céramique, elle apparaît dans des groupes de chasseurs-cueilleurs, on est bien d'accord.
C'est-à-dire que c'est pas pour que, voilà, chez nous, les céramiques arrivent au moment où on cuisine et au moment où on est sédentarisé, tandis que là, c'est pas le cas.
Eh bien là, on suppose qu'en fait, c'était une innovation liée au traitement des graminées sauvages qui étaient systématiquement collectées par ces chasseurs-cueilleurs. Et puis ce Sahara vert, eh bien en fait, il offre un milieu absolument propice pour l'élevage, pour le pastoralisme. Et donc, dès le 8e millénaire avant Jésus-Christ ou avant notre ère, on va dire, toute une série d'animaux domestiqués en Asie, hein, des bovidés, des chèvres, des moutons, vont être adoptés par des populations qui vont devenir pasteurs et qui vont coloniser petit à petit tout le Sahara, qui est vert à l'époque et donc qui offre des prairies, des savanes tout à fait propices. Mais donc, ce sont des éleveurs-collecteurs.
Éleveurs-cueilleurs ou éleveurs-collecteurs.
Voilà, exactement. Il n'y a pas d'agriculture à ce point-là. C'est seulement des millénaires plus tard, en fait, lors d'une phase d'assèchement du climat qui va conduire à l'aride actuelle, donc vers 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, où là, en fait, on aura certainement des contraintes qui vont s'imposer et qui vont mener à la domestication des plantes en Afrique de l'Est, notamment le sorgho, en Afrique de l'Ouest, le petit mil. Et à partir de là, effectivement, il y a toute une série d'autres plantes qui vont pouvoir être domestiquées en Afrique et connaître, voilà. Alors, il y aura comme ça des spécialisations entre groupes. Certains vont rester éleveurs, d'autres seront pêcheurs, d'autres seront agriculteurs. Et puis d'autres, bien sûr, vont mélanger un peu des deux, des gros pasteurs, on a tous les cas de figure. Mais aujourd'hui encore, on retrouve cette diversité des modes de vie.
Mais Anne Maillard, pour une céramique, ça ne se fait pas comme ça en deux coups de cuir à peau, ça prend quand même un certain temps. Donc évidemment, ces chasseurs-cueilleurs étaient obligés, au bout d'un moment, de s'arrêter au moins quelques jours pour fabriquer leur céramique. Donc ce n'est pas un début de sédentarisation, ça ?
Pas forcément, mais en tout cas, ça témoigne du fait qu'ils connaissaient leur milieu, qu'ils connaissaient leur environnement, qu'ils connaissaient les propriétés des matériaux. Donc effectivement, on peut considérer déjà qu'il s'agit d'une forme de domestication des éléments. Et donc, à proprement parler, on peut dire que c'est un début de néolithisation à partir de là. Même si on n'était pas producteur et qu'on n'avait pas domestiqué les plantes et les animaux, effectivement, c'est une première étape.
Et puis aujourd'hui, comme vous venez de le préciser, on a encore des peuplements comme par exemple les Peuls qui sont des pasteurs, c'est-à-dire qui ont gardé ce mode de vie, qui n'ont pas changé, qui n'ont pas été sédentarisés en réalité.
Alors bon, je ne sais pas si on peut dire qu'ils n'ont pas changé. En fait, simplement, il y a une mosaïque de modes de vie, effectivement. Il y a plusieurs populations, de nombreuses même populations d'éleveurs en Afrique, les Peuls, les Maasai et d'autres, qui sont plus ou moins mobiles, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore effectivement très mobiles. La plupart aujourd'hui sont plutôt semi-sédentaires. Il n'y a qu'une partie du groupe qui effectue de la transhumance avec les troupeaux. D'autres sont complètement sédentarisés, mais gardent un contact privilégié avec le bétail.
Vous parliez des Dogons tout à l'heure. Ça me rappelle que je crois que cette population est une des premières victimes du changement climatique, justement, et qu'il y a pas mal de ce qu'on ne doit pas appeler réfugiés climatiques qui viennent du pays, enfin, qui s'en vont du pays Dogon, hein, pour aller à des endroits un petit peu plus agréables à vivre, on va dire, où ils peuvent avoir leur nourriture. Est-ce que ça, c'est un de ces changements qui va, par la suite, aussi modifier la génétique des populations et de cette population en particulier?
Bon, quand on a des petites populations, on a effectivement des effets sur le patrimoine génétique. La démographie, c'est une force évolutive très très puissante qui fait évoluer très très vite les petites populations isolées, par exemple. Alors, c'est ce qu'on constate avec la génétique. Les Dogons ont beaucoup beaucoup accumulé de changements au cours du temps et se retrouvent génétiquement un petit peu plus isolés que les autres populations qui elles ont subi des expansions démographiques ou ont migré davantage.
Là, on va en venir à l'exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui à Genève, que j'ai eu la chance de voir en primeur hier. Donc, Afrique, 300 000 ans de diversité humaine. On discute de ce sujet avec vous depuis une quinzaine de minutes et c'est passionnant, bien sûr. Mais comment est-ce que vous avez réussi à mettre ces connaissances en scène dans une exposition? Comment est-ce qu'on met ça en scène, en fait?
Alors, on a voulu évidemment faire retracer un parcours temporel en démarrant avec l'origine de notre espèce Homo sapiens et en poursuivant plusieurs étapes qui marquent l'histoire des populations africaines à partir de cette période-là. Alors, la mise en scène, c'est tout simplement un parcours dans le temps avec des postes à 300 000 ans, 120 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à arriver à notre diversité actuelle, la diversité des populations africaines actuelles, qui est représentée d'une part par un grand mobile de la diversité génétique africaine et qui est représentée également par des silhouettes de personnages qui vivent dans des populations de différentes régions d'Afrique. Ces silhouettes sont suspendues au-dessus d'une grande carte africaine qu'on va trouver au sol, sur laquelle les visiteurs peuvent se promener.
À pieds nus.
À pieds nus, voilà. À pieds nus, pour pas abîmer la carte. Et cette carte, elle indique par exemple le nombre de langues dans chaque pays d'Afrique, et puis des petites histoires qui sont racontées par des individus qui vivent dans différentes régions. Ça peut être des histoires personnelles, des histoires de la génétique d'une région particulière, etc.
Et au niveau archéologique, à Anne Mayer, il y a des artefacts, des choses comme ça ?
Oui, oui, donc dans chacun de ces postes chronologiques, si on veut, sont montrés à l'aide d'objets emblématiques issus de nos propres fouilles ou prêtés par diverses institutions, ces grandes étapes des innovations techniques et économiques qui ont jalonné en fait toute l'histoire de notre espèce en Afrique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de combiner en fait les connaissances de la génétique et de la préhistoire pour raconter cette grande histoire de notre espèce en Afrique et qui a conduit à cette étonnante diversité qu'on observe aujourd'hui dans linguistique, que génétique, que culturelle, et qui est souvent méconnue en fait.
Ouais. Adrien, tout à l'heure, me racontait, me décrivait le mobile dont vous venez de parler, Alicia Sanchez, sur
oui.
toute la variété, la variété de génétique en Afrique. Et il y a une toute petite branche, on va dire, de ce grand mobile, de ce grand arbre, qui représente en fait tout ce qui ne vit pas en Afrique maintenant, c'est-à-dire nous et tous les autres.
Oui, dans ce mobile, nous avons représenté les populations africaines. Il y a 120 populations africaines qui sont représentées. Et puis, il y a la dernière branche, en fait, c'est la branche la plus récente de ce grand arbre des relations génétiques entre populations, symbolise, en fait, les populations qui sont sorties d'Afrique aux alentours de 120 000, 100 000 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces populations, au moment où elles sont sorties d'Afrique, elles ont peuplé la planète sous forme de petites populations, petits groupes, et elles ont perdu de la diversité génétique. Donc, si vous regardez la diversité génétique aujourd'hui des populations d'Europe, par exemple, elle représente un sous-ensemble de la diversité génétique qu'on observe en Afrique.
Est-ce que d'un point de vue, par exemple, médical, ça signifie que cette diversité génétique, c'est aussi une source de résistance, de résilience par rapport à certaines maladies ou des choses comme ça? Parce qu'on imagine forcément plus grande variété égale plus grande résilience.
Écoutez, il y a beaucoup d'adaptations génétiques qui ont eu lieu dans diverses populations de par le monde. Il y a eu toutes sortes d'adaptations à des environnements, à l'altitude, au climat, etc. En Afrique, il y a eu aussi des adaptations, effectivement, notamment les maladies infectieuses, qui se sont propagés, on pense, de façon considérable au moment du néolithique surtout. Et cela a conduit à modifier les patrimoines génétiques des populations et notamment à créer de la diversité dans les gènes de l'immunité. Ce sont des gènes que j'étudie en tout particulièrement, les gènes HLA, et on constate effectivement que plusieurs de ces mutations confèrent des résistances à des maladies infectieuses qui sont très très endémiques en Afrique notamment.
Alors, brièvement encore, il y a deux oublis des Occidentaux qui sont fréquents. D'abord, effectivement, le fait qu'on a compris que deux tiers de notre histoire en tant qu'Homo sapiens est africaine. Et puis l'autre, c'est que depuis 120 000 ans, c'est-à-dire depuis le départ de ces groupes vers les autres continents, et bien la population, évidemment, à l'intérieur du continent africain, elle a continué à évoluer.
Bien entendu. On pense souvent que l'Afrique, c'est une terre primitive, la terre de nos origines, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'histoire a continué en Afrique pendant des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toute cette histoire, justement, qu'on cherche à retracer, à raconter dans cette exposition.
et qui s'appelle Afrique, 300 000 ans de diversité humaine, et qui est à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au 6 septembre à la salle d'exposition de l'Université de Genève, au 66 boulevard Karl Vogt. Merci beaucoup, Alicia Sanchez-Mazas. Vous êtes professeure responsable de l'unité d'anthropologie de l'Université de Genève, et merci aussi à vous, Anne Mayer, maître d'enseignement et de recherche dans la même unité. Merci d'avoir répondu donc à l'invitation d'Adrien Zerbini, et je vous souhaite une excellente journée à Genève.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et j'en profite pour remercier nos collègues de Genève que nous avons fortement mis à contribution ce matin.